Previously on Desperate Housewives.
Previously on Buffy the Vampire Slayer.
Previously on Daniel.
Previously on Mars.
Previously on Fringe.
Je m'appelle Gwenola Ricordo et je suis professeure de justice criminelle à la California State University à Chico, donc à l'université d'État de Californie. J'habite en Californie du Nord depuis 6 ans. Avant, j'ai fait toute mon éducation et ma carrière professionnelle en France. Je suis sociologue de formation. En clair, j'ai un doctorat de sciences sociales. Et j'ai d'abord commencé mes travaux sur la question des proches de personnes incarcérées, la manière dont la prison affecte l'existence de personnes qui ne sont pas incarcérées. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les effets de la peine et les effets du système carcéral, au-delà même des personnes qui sont directement affectées par le système pénal et donc la peine d'incarcération. Donc, je suis sociologue de formation, mais aujourd'hui, j'occupe un poste d'enseignante en justice criminelle. Alors, il faut savoir que dans le contexte états-unien, on emploie l'expression de justice criminelle ou de criminologie de façon quasiment similaire, même si de façon un petit peu subtile. Généralement, les départements qui emploient l'expression justice criminelle sont plus progressistes que les départements qui utilisent l'expression de criminologie. Donc, les départements de criminologie ont tendance à davantage axer leur formation sur un côté pratique et donc à plutôt orienter leurs étudiants vers les métiers liés au système pénal, donc les métiers de policiers, de surveillants. Mais bon, tout ça est quand même assez subtil. Par contre, ce qui me semble intéressant de dire pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de criminologie, c'est qu'il y a toute une spécificité française aujourd'hui qui est liée à l'histoire des disciplines, qui fait que la criminologie en France est de fait la science, est liée à la science de l'investigation policière et que de fait, elle a un caractère relativement conservateur. Alors, ça, c'est pas valable pour d'autres pays, alors que ce soit l'Amérique du Nord, mais aussi des pays francophones comme la Belgique ou la Suisse, où le terme de criminologie désigne tout simplement, en fait, les sciences qui ont pour objet ce qu'on appelle, nous, en sciences sociales, la déviance. Et donc, là, il ne s'agit pas d'un terme qui est un terme de jugement, mais simplement de dire qu'il y a des comportements qui ne se conforment pas aux normes. Donc, les déviances, mais aussi leur traitement par le système pénal et les sanctions pénales. Et donc, employer le terme de criminologie, c'est un petit peu de la même manière lorsqu'on parle d'études genre, de dire, en fait, c'est un ensemble de savoirs sur la question du genre, des rapports sociaux de sexe, et ça dit rien, en fait, de l'orientation politique, en fait, de la discipline. Et de fait, on a des gens qui viennent de disciplines variées, qui viennent de la science politique, de la sociologie et qui font de la criminologie.
Stanislas Godon, ces policiers qui se vantent d'être fichés F comme fachosphère. Vous dites que c'est une large minorité ? Minorité mais large ?
Alors, si vous voulez que je réponde notamment aux accusations de tous ceux qui ont dit ces derniers jours...
Le racisme est institutionnalisé voilà, dans la police nationale,
systémique, qu'il est instauré,
c'est
pratiquement un racisme d'État. Non, très clairement, d'abord parce que la police, elle est à l'image de la société.
Le discours qui est le plus souvent entendu dans les médias ou même la critique de la police, de dire qu'il y a des dysfonctionnements. Et nous, d'un point de vue abolitionniste, nous disons non, il n'y a pas des dysfonctionnements. Tout ceci est le fonctionnement normal, en fait, de la police. On ne peut pas imaginer, en fait, une bonne police, et on ne peut pas imaginer de mauvais et de bons policiers. Et au contraire, il faut se dire, la police fait exactement ce pourquoi elle a été créée. Tout cela est juste normal, en fait, normal d'avoir une police raciste, une police au service de l'ordre capitaliste, au service du patriarcat, puisque c'est en fait sa raison d'être. Et donc, il faut rompre avec le discours et le mythe qu'il pourrait y avoir une bonne police et une police qui pourrait être progressiste au service des minorités au service de l'émancipation. En fait, aujourd'hui, il y a en France, mais comme dans d'autres pays, beaucoup de discussions autour de la réforme de la police, des réformes possibles de la police. Et on peut dire deux choses. On peut dire d'abord que les réformes qui sont proposées, en fait, ne fonctionnent pas. Elles n'ont pas les attendus qui sont exposés généralement. Mais il y a, à mon sens, une question qu'il est important de poser lorsqu'on parle des réformes de la police, qui est, mais en fait, à quoi servent ces réformes, puisque ces réformes ne sont pas efficaces. Et un certain nombre d'auteurs, en particulier Dylan Rodriguez, qui publie un texte dans le livre 1312 raisons d'abolir la police, Dylan Rodriguez dit, en fait, ces réformes, elles ont un rôle, et leur rôle, en fait, c'est de contribuer à la contre-insurrection libérale. Et je trouve ça extrêmement intéressant, en fait, de rompre avec les discussions autour des réformes, de ce que l'on pourrait faire pour améliorer la police, mais plutôt d'interroger les réformes elles-mêmes et quel est, en fait, le rôle de ce mythe de la possibilité de réformer la police. Et donc, de dire en clair que ces réformes et tous les discours autour des réformes de la police contribuent à légitimer l'existence de la police.
Il reste d'attraper Lolo, un bob, une moustache sur les portraits robots. Quatre mecs moins sapés et des sacs de rando. La police va du shit dans toutes mes vidéos. Petit à l'école, ils se faisaient frapper. Pouvaient devenir quelqu'un, mais sont devenus condés. Ils veulent se venger, cherchent de l'autorité. La vie se résume à pas se faire choper. Chez moi, tout le monde trouve son bonheur. Je fais des courses poursuites en roller. Les poches sont pleines, je suis bon acteur. Un joint de la taille d'un réacteur. Je veux faire l'argent, du pé, l'État. Survol, le fisc et toutes les lois. Mais la bague, la vie de ma mère, la douane est du machin en l'air. Fils qui les gueule, je sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Mais la bague, la vie de ma mère, la douane est du machin en l'air. Fils qui les gueule, je sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Ça veut pas que les jeunes fument la peau, mais eux boivent du rouge tous les soirs. Vide ma valise sur le quai de la gare, bah que fouille dans mes caleçons sales. Fils de pute, contribue à mon pécule. Les drogués, c'est ma tribu. Un ou deux kills, j'ai plus. Ouais, j'ai un procès clair. J'ai comme procès, je réerre. Je n'apprends pas procès net. Car quoi de très peu sur le net. J'serai dans ma planque barricadée, mais jamais derrière les barreaux. Fétichiste du bon bédo, anarchiste kick les collabos. Je veux faire l'argent, du pé, l'État. Survol, le fisc et toutes les lois. Mais la bague, la vie de ma mère, la douane est du machin en l'air. Fais ce qui les gueule, je sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Mais la bague, la vie de ma mère, la douane est du machin en l'air. Fais ce qui les gueule, je sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope.
La résine de quoi? Ah là là, j'ai déjà vu ça à la télé. Non, mais j'aime pas ça. Ah non, je fume pas. Ouais, t'inquiète, bonne journée.
Hey, nique la bague, la vie de ma mère, la douane est du machin en l'air. Fils qui les gueule, j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Nique la bague, la vie de ma mère, la douane est du machin en l'air. Fils qui les gueule, j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope.
La police. La mise en avant des populations qui sont ciblées par l'action de la police. Hein, on dit, et c'est très largement admis, et c'est le cas, hein, que la police est raciste, qu'elle vise tout particulièrement les hommes racisés, les hommes pauvres. Et c'est évidemment important de le dire, parce que c'est important de souligner, en fait, quel est le rôle de la police et que la criminalisation, elle n'est pas liée à une sorte de naturalité de la criminalité. Hein. Les hommes noirs, les hommes pauvres sont criminalisés, pas parce qu'ils sont particulièrement criminels ou parce que leurs actes portent préjudice à la qualité de vie en société, mais bien parce qu'ils sont racisés, parce qu'ils sont pauvres. Mais une fois que l'on a dit ça, et encore une fois, hein, c'est important de le dire très clairement, on remarque que très souvent, on ne rentre pas dans, en fait, l'autre partie de la question qui est, mais en fait, à qui profite l'existence de la police? Hein, on dit, qui qui est atteint par l'existence de la police, qui est affecté par l'existence de la police. Mais en fait, dire clairement, la police profite au racisme systémique, au capitalisme, au patriarcat, ça a à mon sens une autre portée. Hein, et donc ça renverse la charge. Et au lieu de simplement pouvoir imaginer une police qui, par exemple, aurait moins de stéréotypes ou de biais racistes, hein, c'est des expressions beaucoup utilisées en Amérique du Nord, hein, cette idée que il faudrait que la police, finalement, qu'il y ait moins de biais racistes ou de stéréotypes racistes, finalement, c'est un piège qui se referme sur nous. Par contre, si on dit la police profite au capitalisme, la police profite à la bourgeoisie, la police profite aux populations blanches, la police profite au patriarcat, là, en fait, il n'y a pas de moyen de réformer ça.
Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils s'arrangent quand même pour qu'à la fin de l'année, il y ait moins de morts du côté des assassins que du côté de la police. Ça me paraît indispensable. Que l'équilibre reste entier, voyez-vous.
Vous ne pouvez pas mettre sur la balance, disons, un policier qui fait son travail ou son devoir, puisque c'est le terme
utilisé.
Oui,
mais expliquez-moi comment un policier qui fait son devoir tire toujours sur un arabe en tombant derrière, dans le dos. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent.
Alors l'étiquette, l'expression abolitionnisme, ça apparaît au milieu des années 70, ça apparaît à la fois en Amérique du Nord et en Europe. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y a à la fois des intellectuels, des chercheurs, des militants, militantes, des luttes qui se revendiquent de l'abolitionnisme et qui se pensent comme abolitionnistes. Mais après, comme beaucoup d'ailleurs de champs de lutte, il peut y avoir des luttes qui, sans revendiquer une étiquette, s'inscrivent dans ce courant de pensée ou contribuent en fait à l'avancée de ce type d'idées. Et si en fait on essaie de faire une généalogie de ce qu'est l'abolitionnisme, on peut dire certes, c'est à partir du milieu des années 70 qu'il y a cette étiquette qui peut être revendiquée. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a à la fois une longue histoire de résistance populaire à l'existence de la police, qu'il y a dans la culture populaire de nombreuses manières dont l'existence de la police a été contestée. Et puis, il y a, dans les expressions politiques, notamment avec les mouvements anarchistes, depuis toujours une contestation de l'ordre policier et de la légitimité de l'État. Et quand vous remettez en cause l'existence de l'État, forcément, vous remettez en cause la police. Et donc, on peut parler alors d'un proto-abolitionnisme, d'un abolitionnisme qui ne se dit pas abolitionniste. Mais c'est vrai que je pense que c'est important de pas réduire l'abolitionnisme à des luttes ou à des réflexions qui se revendiquent telles. Et c'est de la même façon on peut dire cela également du féminisme. Hein. L'étiquette féministe n'est pas toujours revendiquée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines luttes qui, sans utiliser l'étiquette féministe, contribuent à l'avancée de la cause des femmes. Il y a eu des luttes féministes, que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de féministes, avant même que cette étiquette existe. Oui, parce que la police et la prison fonctionnent ensemble. On ne peut pas avoir une prison sans qu'il y ait une force d'arrestation et une force chargée d'amener les personnes en prison. Et puis, aujourd'hui, le système pénal est un système qui repose sur la punition. Et dans l'état actuel de nos sociétés, la peine d'enfermement, la peine d'incarcération est la peine étendard. Et pour nous, abolitionnistes, lorsqu'on revendique et qu'on travaille à l'abolition du système pénal, on pense en fait toutes les institutions pénales, donc que sont la prison, les tribunaux et la police. Alors, de manière générale, chez les abolitionnistes, lorsqu'on parle d'abolir la prison comme d'abolir la police, notre analyse est d'abord que ces institutions et plus généralement le système pénal portent préjudice à la qualité de vie en société, hein, elles font du tort, elles nous font du tort, et que comme n'importe quelle chose qui fait du tort, le but c'est pas de le remplacer. On n'aurait pas idée de se dire on va lutter contre la peste, ah, mais par quoi on va la remplacer? En fait, le but, c'est de construire une société sans ces institutions qui affectent qui affectent notre qualité de vie, la manière dont on construit les rapports sociaux. Alors, lorsqu'on pose la question, finalement, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que cela implique de vivre dans une société sans police et sans prison, du reste? Je pense qu'il y a plein de manières de répondre à cette question, mais qu'il faut d'abord commencer par dire que l'histoire de la police, comme l'histoire de la prison, c'est une histoire totalement anecdotique à l'échelle de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que toutes les sociétés humaines ont des manières de régler les préjudices qui sont commis en leur tort. Toutes les sociétés humaines vont avec des préjudices. Il n'y a pas de société parfaitement harmonieuse. Alors, il y a des sociétés plus ou moins harmonieuses, mais il y a toujours ce problème-là dès qu'on est dans une forme de vie sociale. Et donc, il y a eu plein de manières de gérer les préjudices, de gérer les torts, mais que cette façon qui est historiquement située, géographiquement située, qui s'est d'ailleurs répandue à travers le monde avec la colonisation, qui a été imposée à des sociétés qui avaient d'autres manières de gérer les préjudices en leur sein, rappeler donc l'historicité de la police comme de la prison, à mon avis, c'est déjà une première manière de répondre, puisque aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on parle d'abolition de la police comme de la prison, il y a très généralement une première réaction qui est une réaction de dire mais en fait c'est normal d'avoir une police, c'est normal d'avoir une prison. Alors effectivement, il y a une forte propagande pour nous faire croire que ce sont des institutions naturelles, qu'il y a quelque chose de naturel à punir les personnes qui font du préjudice, qui font du tort aux autres. Mais la punition, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il n'y a aucune raison que ce soit quelque chose de naturel. Et donc, répondre ça, ça permet d'ouvrir ce que nous, abolitionnistes, appelons l'imagination abolitionniste. De se dire, en fait, les sociétés humaines ont inventé énormément de choses. Elles ont notamment inventé la prison, elles ont notamment inventé la police. Et on peut à la fois s'inspirer de manières de faire était dans le passé, mais aussi on peut construire un avenir sans police et sans prison. Ceci étant dit, moi, mon abolitionnisme est un abolitionnisme qui dit clairement que le préalable, c'est un processus révolutionnaire et que je n'imagine pas l'abolition sans une abolition du capitalisme, sans une abolition du patriarcat, du racisme systémique, et que pour moi, l'abolition, c'est une autre organisation de la vie sociale, et que on ne peut pas simplement soustraire cette institution et se dire que en fait il pourrait y avoir une société capitaliste qui dans laquelle il n'y aurait pas de police. Et là, c'est le risque que vous évoquiez, en fait, de remplacement de l'institution policière, comme du reste de remplacement de l'institution carcérale, par des formes qui seraient plus soft, qui seraient plus acceptables en fait dans la société. En clair, c'est tous les risques de surveillance et de contrôle des populations à partir des nouvelles technologies, des algorithmes, des caméras avec reconnaissance faciale, etc., qui sont donc des formes de contrôle et de surveillance des populations, qui ne sont pas donc des formes visibles de policing, de présence policière, par exemple, dans l'espace public, et qui, du coup, pourraient être, enfin, qui sont, de fait, beaucoup plus acceptables. Et nous, abolitionnistes, disons, en fait, que la question, c'est pas celle des policiers en uniforme, pour dire les choses rapidement, c'est pas la police telle qu'on l'entend souvent, en se représentant le policier en uniforme. La question, c'est bien celle, en fait, de la fonction et du rôle de la police dans nos sociétés, et c'est à cela que l'on s'oppose.
Suspects are seen climbing out of both windows, male Hispanic and a possible male black. They have their vehicle van parked at a location.
Take it. faire.
Oui, alors malheureusement, à gauche, si on parle de manière générale de la gauche, le mythe d'une police qui serait là pour nous protéger est encore extrêmement fort. Et malheureusement, ce mythe, il est possible parce que il y a le refus de poser la question de qui est ce nous, en fait, lorsqu'on dit la police nous protège. Et on voit très régulièrement des menaces qui sont agitées comme la question du terrorisme, la question des violences à caractère sexuel, en fait, pour justifier non seulement l'existence de la police, mais surtout des innovations pénales, davantage de criminalisation. Et c'est vrai que je regrette fortement qu'il y ait un manque en fait d'analyse en termes de classe, en termes de race, en termes de genre, de ce que fait le système pénal. Et à mon avis, tant qu'il y aura à gauche le refus de poser cette question-là et qu'il y aura toujours ce mythe d'une police qui pourrait être une bonne police, alors qu'elle soit qualifiée de police républicaine ou de... il y a plein d'autres avatars, le mythe d'une police de proximité, d'une police qui serait plus proche de la population, tout un mythe aussi autour d'une police à l'ancienne, d'une police qui était plus humaine. Alors tout ça est totalement faux, c'est ignorer le rôle passé et présent de la police dans la criminalisation des luttes émancipatrices, de la répression des mouvements sociaux, du rôle de la police dans la colonisation. Enfin, tant qu'il y aura le refus dans une grande partie de la gauche d'avoir cette discussion et d'avoir cette analyse, à mon sens, on manquera en fait cette analyse qui est essentielle en fait pour rompre avec le cycle infernal des scandales autour de la police, des propositions de réforme et puis le retour à la normale. Et en fait, ce cycle-là, c'est un cycle perpétuel auquel malheureusement une certaine gauche contribue en faisant régulièrement des appels à réformer la police. Et donc, cette gauche-là, finalement, légitime non seulement l'existence de la police, mais contribue à légitimer son existence.
Je veux seulement dire à quel point je suis reconnaissant aux forces de police et à tous les bénévoles qui ont collaboré aux recherches pour retrouver notre fille chérie.
Vous êtes médium ?
Non. Observateur, c'est tout. Je vous observe, vous et votre mari. Je voulais vous dire que je sais exactement ce que vous êtes en train de faire.
Vous n'en avez pas la moindre idée.
Si, je le sais.
On est baigné dans une culture populaire et une propagande d'État, une propagande policière qui laisse à penser que il y aurait entre l'existence de la police et l'activité policière et ce qu'on désigne par criminalité un effet de vase communicant et que donc plus il y aurait de police, plus les policiers travailleraient, moins il y aurait de criminalité et vice-versa. Hein, s'il y a moins de policiers, on risque d'avoir une explosion de la police et c'est généralement la première réaction que vont avoir les gens lorsqu'on parle d'abolition de la police. Ils se disent ben, ça va juste être le chaos. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que lorsque on dit aux gens, mais en fait, on sait que parmi les facteurs explicatifs du niveau de la délinquance, en tout cas de ce qu'on appelle la délinquance, on retrouve la question de la répartition des richesses, la qualité des liens sociaux. Lorsqu'on dit ça, ça paraît évident pour un grand nombre de personnes hein, que c'est d'abord ça qui explique pourquoi il peut y avoir des vols, pourquoi il peut y avoir des violences interpersonnelles, etc. Et en fait, dire cela, hein, dire que la délinquance, la criminalité est liée à la question des richesses, de leur répartition, du mode de vie des personnes, en fait, c'est exactement dire la même chose que la police a peu d'efficacité sur la délinquance et la criminalité. Mais par contre, il y a une formulation qui est plus choquante que l'autre, alors que le sens est le même. Alors, une fois que l'on a dit ça, il faut aussi dire que ce que l'on entend aujourd'hui par délinquance, criminalité, c'est en fait construit historiquement et socialement, et que tout cela est à la fois le résultat du système capitaliste, de la manière dont est pensé ce qui fait tort à la société, et notamment la criminalisation de tout ce qui est lié à la propriété privée, et que donc lorsque on fait la critique de l'action policière sur ce qui est désigné comme la criminalité, on dit aussi que nous, abolitionnistes, pensons qu'il faut se défaire en fait de ces catégories de crimes, de criminalité, et en venir plutôt à des définitions qui sont liées au préjudice, au tort subi par les individus. Hein, et donc, sortir de ce code pénal qui est l'expression d'un rapport de domination, qui est le résultat d'une société capitaliste, bourgeoise, raciste, patriarcale. Et que, du coup, lorsque nous pensons la qualité de vie en société, la manière dont on peut répondre aux préjudices, aux torts des uns et des autres, évidemment que l'on ne pense pas en termes de délinquance et de criminalité tel que c'est aujourd'hui pensé.
La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Et une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Je peux rien faire, je peux rien faire. Spectateur du désespoir, je peux rien faire.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de doigts, de cracha, cha cha, de franc, compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant, simplement en culotte courte. Pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne. Et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent, incandescent, chiant, à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas, mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur, porter le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croient ce poil. C'est rien, Léa, si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit de soir. Chacun sans boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre?
Je peux rien faire.
Oui, ces cycles faits d'images de violences policières, de crimes policiers, suivis par une indignation, des mobilisations, des propositions de réforme, et puis le retour à la normale, c'est des cycles qui sont extrêmement bien rodés, hein, c'est des cycles politico-médiatiques que l'on observe pas simplement en France. Et pour nous, abolitionnistes, ces cycles sont simplement, en fait, des manières de justifier toujours et encore l'existence de la police. Et d'un point de vue stratégique, il est, à mon sens, important, en fait, de ne pas les nourrir et de voir que, en fait, ces cycles-là permettent toujours d'éviter la discussion sur la légitimité de l'existence de la police. En fait, on ne sort jamais de cette matrice. Hein, il y a toujours en plus les mêmes réformes qui sont proposées. Enfin, il y a vraiment une stabilité en termes de propositions. Il y a toujours des invocations des polices étrangères. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe dans tous les pays. Hein. Aux États-Unis, on nous parle des polices européennes. Lorsque on est dans ce genre de séquences médiatiques en France, on va nous parler de la police allemande, de la police dans les pays scandinaves. Et puis dans ces pays-là, il y a sans doute d'autres polices qui sont invoquées. Et donc tout ça, c'est finalement une manière de dire bah, qu'il existerait de bonnes polices, des polices moins bonnes, et que donc on pourrait réformer la police. Et donc finalement, tout cela sert l'agenda et les mythes réformistes qui... évidemment, sont des mythes auxquels on s'oppose en tant qu'abolitionniste. Mmh. On entend souvent dire, effectivement, qu'il faudrait plus former les policiers. Et à cela, il faut répondre plusieurs choses. À commencer que les policiers qui ont tué George Floyd aux États-Unis, donc à Minneapolis en 2020, appartenaient à l'une des polices les plus réformées des États-Unis, donc la police de Minneapolis, hein, ça a été abondamment rappelé par un abolitionniste qui est Alex Vitale. Et donc, se dire que c'est d'un point de vue pragmatique, pas une manière de s'assurer, en fait, que les policiers vont être moins violents, moins racistes, etc. Et aux États-Unis, on a une industrie extrêmement importante qui est celle de l'éducation aux biais et aux stéréotypes de race, et d'ailleurs aussi aux stéréotypes de genre. Hein, tout ça constitue un champ relativement prospère qui, en fait, tend à faire croire que le racisme, c'est une question d'éducation, c'est une question individuelle, et qu'il suffirait d'être davantage éduqué et qu'on se débarrasserait ainsi du racisme. En fait, le racisme, c'est une structure sociale. La deuxième objection que l'on peut faire à la proposition d'éduquer davantage les policiers, c'est que finalement, ça contribue à allouer davantage de ressources à la police et que d'un point de vue très pragmatique, on peut se dire que si on lutte contre l'institution policière, on veut en fait d'abord que l'institution policière ait moins de budget. Hein, il ne s'agit pas en fait que l'institution policière voilà, se gonfle d'un point de vue budgétaire. Et donc, il y a sans doute d'un point de vue tactique, là, une revendication qui, finalement, serait contre-productive. Alors, on entend aussi souvent dans les propositions qui sont souvent formulées autour de la police qu'il faudrait que les policiers rendent davantage des comptes, que la police rende des comptes. Et cela se formule de différentes manières. Alors, ça peut être la supervision de la police via ce qu'on entend, enfin, ce qu'on connaît en France, une police des polices, IGPN, etc. Alors, il y a parfois d'autres propositions hein, de type comité de surveillance ou de contrôle qui serait ouvert à des citoyens, des citoyennes. Et puis, c'est la question de l'impunité policière et le fait qu'il faudrait que il y ait davantage de condamnations de policiers. Alors tout cela amène un certain nombre d'objections, à commencer par le fait que le contrôle de la police, bah, en fait, ça ne permet pas de sortir de la question de l'existence de la police. Et pour le dire sous forme de boutade, qui va policer ceux qui polissent la police, hein, qui finalement va être chargé de contrôler ce que fait la police. Et est-ce vraiment de cette manière-là dont on pourrait se sortir par le haut, en fait, de la question de l'existence de la police? Alors, il y a évidemment, d'un point de vue pragmatique, l'observation de ce que font ce type de comité de surveillance, de vigilance, etc., qui nous permet d'être très sceptiques, en fait, sur la portée, en fait, de leur action. Et puis, il y a toujours, en tout cas, à mon sens, un effet d'annonce qui serait que cela permettrait d'avoir davantage de transparence, davantage de vérité sur l'activité policière. Mais pour moi, il faut répéter, en fait, que y a depuis très longtemps un travail militant extrêmement important, extrêmement bien renseigné sur ce que fait la police, et que on n'a pas réellement, c'est pas réellement ce dont on a besoin de savoir davantage ce que fait la police. On le sait, on sait déjà que la police est raciste, on le sait déjà que les populations pauvres, que les populations racisées sont victimes de la police. Et donc, pourquoi nous proposer, en fait, une énième institution qui, finalement, ferait ce que font déjà très bien les militants et ce que savent très bien les gens qui sont la cible de de l'institution policière. Alors, quant à faire rendre des comptes à la police devant les tribunaux, il y a pour moi également un caractère totalement illusoire. Je voudrais rappeler que lorsque Derek Chauvin, le principal responsable du meurtre de George Floyd, a été condamné devant la justice états-unienne, le principal syndicat de policiers aux États-Unis s'en est réjoui, et c'est tout à fait naturel qu'il s'en soit réjoui, parce que cette condamnation, c'est finalement totalement, ça s'inscrit totalement dans le discours policier, qui est celui de l'existence, en fait, de brebis galeuses ou de mauvaises pommes, de pommes pourries, comme on dit aux États-Unis, et désigner un Derek Chauvin comme un policier raciste, un policier violent, ben, c'est finalement justifier le fait qu'il existe des bons policiers, que Derek Chauvin n'avait pas sa place parmi les policiers, mais pendant ce temps-là, en fait, ça contribue à renforcer l'idée qu'il est possible d'avoir de bons policiers et qu'il suffirait, en fait, de se débarrasser de quelques mauvais policiers. Il y a cette illusion, hein, que la police serait là pour ce qu'on entend généralement la sécurité, mais en fait, la sécurité, alors Marx dit concept suprême de la société bourgeoise, mais c'est effectivement, hein, cette idée que la question n'est pas celle, finalement, hein, de la sécurité interindividuelle, de cette représentation que l'on a que c'est l'autre qui est dangereux pour nous, hein, et cette focalisation qu'on peut avoir avec ce terme de délinquance, comme quoi les préjudices sont essentiellement des préjudices commis entre les personnes, mais cette focalisation nous détourne notre attention sur des systèmes qui sont extrêmement néfastes et qui font bien plus de victimes que ce qu'est aujourd'hui désigné par les termes de délinquance ou de criminalité, et il s'agit là du système capitaliste, du racisme systémique, du patriarcat, hein, et ces systèmes de domination, ces systèmes qui sont extrêmement néfastes, dont on ne compte jamais les morts et les blessés, hein, ils ne sont jamais sur le banc des accusés. Et donc, dans les tribunaux, sur les bancs des accusés, on retrouve des personnes qui... Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de préjudice, qu'il n'y a pas de tort, qu'il n'y a pas de vraies victimes. Mais en tout cas, les systèmes qui permettent ces formes de victimation sont évidemment jamais poursuivis en justice. Hein, et le système pénal est là, en fait, pour désigner des individus, alors y compris un Derek Chauvin, pour dire que ce sont eux les responsables. Et donc de jamais, en fait, avoir la discussion sur les systèmes de domination qui permettent cela. Alors il est vrai que les luttes et les réflexions anarchistes sont centrales lorsque on parle d'abolitionnisme, hein, qu'il n'y aurait sans doute pas eu d'abolitionnisme sans ces réflexions et ces luttes anarchiste. Mais l'abolitionnisme, il est nourri d'autres courants de pensée. Il est parfois ancré dans d'autres filiations politiques. Je pense notamment en Amérique du Nord et aux États-Unis en particulier à tout l'héritage des Black Panthers, qui est un héritage beaucoup plus marxiste que libertaire ou anarchiste. Et donc, il y a cette diversité-là. En fait, pour moi, l'enjeu, il n'est pas tellement finalement celui des étiquettes. D'étiquettes précises d'un point de vue de l'histoire des idées politiques lorsque on pense un avenir abolitionniste. Par contre, il est de toute évidence pour moi situé dans une extrême gauche révolutionnaire, anticapitaliste, antipatriarcale, antiraciste, décoloniale. C'est peut-être de cette manière-là que je le définirais. Ensuite, il y a évidemment des débats sur la stratégie. Et ces débats-là, ils ont une importance ensuite lorsque on cherche justement à inscrire dans des étiquettes politiques. Mais en tout cas, la façon dont moi je pense l'abolitionnisme, c'est un abolitionnisme situé effectivement dans une extrême gauche qui fait rupture avec le système actuel.
Previously on Desperate Housewives.
Previously on Buffy the Vampire Slayer.
Previously on Dan.
Previously on
Law.
Previously on.